affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Bonjour, bienvenue sur Canal Académie. Diariste, ce mot rare à la fois désuet et délicieux, désigne selon le dictionnaire de l'Académie française un écrivain qui tient un journal intime. C'est la tâche que se donna Marc Lambron, membre de cette compagnie, durant l'année 2017, une séquence chronologique marquée par la campagne qui consacra Emmanuel Macron président, mais vit aussi l'émergence du mouvement MeToo, comme la disparition de Jean d'Ormesson et de Johnny Hallyday. Ce genre littéraire du journal ouvre un dialogue quotidien avec l'aléa pour le fixer dans une démarche photographique et peut-être même mémoriale. C'est l'année du coq de feu aux éditions Grasset. Bonjour Marc Lambron.
Bonjour.
Alors,
vous êtes... le coq.
Exactement, vous avez choisi d'écrire ce journal pour vos 60 ans, l'âge auquel beaucoup se consacrent plutôt à leur mémoire et se retournent vers leur passé. Vous, vous avez choisi de vous intéresser au présent. Pourquoi est-ce la matière de votre écriture ?
D'abord parce que je suis de la génération, mais ça s'est aggravé ensuite, où les gens ont 19 ans jusqu'à 55 ans. Donc le cap des 60 ans n'est plus aujourd'hui un cap de déclenchement des mémoires. C'est sans doute une façon de se rassurer. D'ailleurs, il y a une mutation anthropologique dans la société française. Si vous regardez les textes qu'écrivait notre regretté confrère Jean-Loup Dabadie, soit pour les chansons des années, mettons, de 60, début 70, pour Reggiani, pour Julien Clerc, ou dans les scénarii pour Claude Sautet, par exemple, vous voyez très bien qu'il y a un seuil à 40 ans, que 40 ans est posé comme problématique à l'époque. Aujourd'hui, pas du tout. Et 60 ans, c'était l'âge où on partait dans sa maison en Provence, avec cette idée de retraite. Bon. Évidemment, il y a une mutation temporelle qui fait que je trouverais très prématuré d'écrire des mémoires, que je ne suis pas sûr d'ailleurs que j'aurais des choses intéressantes à dire sur le long cours, et que le genre du journal a en effet un aspect mémoriel, mais un aspect mémoriel projectif. C'est-à-dire que vous fixez du présent et que peut-être plus tard, avec précisément l'écart temporel du moment où il pourra être lu, peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, à ce moment-là, il acquiert une valeur d'archive. Donc il y a une temporalité assez propre au diariste, je trouve. Alors d'abord, il y a deux options, parce que vous disiez journal intime. On a aussi inventé la notion de journal extime, comme néologisme. C'est-à-dire, si vous prenez les grands diaristes, c'est assez intéressant de voir dans quelle position est le scripteur par rapport à lui-même et par rapport au monde.
Dedans, dehors.
Par exemple, vous prenez le journal Damiel, qui était ce Suisse, cet écrivain suisse de la fin du 19e siècle. C'est un énorme journal qui est essentiellement un relevé presque météorologique de ses humeurs. Vous prenez le journal de Virginia Woolf, très intéressant parce que c'est l'atelier d'une œuvre. Donc, on voit très bien en marge des livres qu'elle est en train d'écrire, La promenade aux phares, Mrs. Dalloway, Les vagues, etc., comment latéralement ou simultanément au temps de l'écriture, elle précisément travaille. Elle nous donne presque une sorte d'agenda de la création littéraire. Au contraire, il y a des grands modèles. Alors, un grand modèle, même si c'est posthume et non délibéré, c'est Les choses vues de Victor Hugo. Moi, c'est plutôt cela que j'aime, c'est-à-dire non pas consigner des états d'âme qui d'ailleurs n'ont pas grand intérêt, mais se placer plutôt, comme vous le suggériez, en position photographique par rapport à ce qui arrive, c'est-à-dire l'œil du témoin. Donc plutôt un parti pris extime. Alors après, je peux peut-être vous dire quelques petites choses, puisque vous m'y invitez, sur la spécificité du journal comme genre littéraire. Quand vous composez, quand vous préparez un roman, vous le préméditez, c'est-à-dire que vous avez une idée de ce que vous voulez raconter et du terme du récit ou de l'intrigue. Pour prendre un grand exemple, Proust prenait la métaphore de la cathédrale. Donc on prémédite les plans de la cathédrale et puis ensuite on exécute, et dans son cas sur une quinzaine d'années, le plan. Même si d'ailleurs le plan, dans le cas de Proust, est d'ailleurs assez intéressant, parce que le temps projeté de l'écriture va être parasité par l'événement historique, autrement dit par la guerre de 14-18, qui n'était pas prévu initialement et qui va incorporer dans son texte. Bon. Un diariste, quelqu'un qui tient un journal, c'est très différent, parce que vous n'êtes pas dans une dimension de préméditation, mais plutôt le sujet d'un aléa. C'est-à-dire que vous commencez le 1er janvier, vous ne savez pas ce que vous allez écrire le 15 novembre. Donc, vous vous placez en position, je dirais presque passive en tout cas. Vous êtes comme une pellicule sensible. Vous êtes un écrivain argentique en quelque sorte. C'est-à-dire que vous allez imprimer ce qui arrive et vous êtes précisément tributaire de l'imprévu. Deuxièmement, il y a un régime d'écriture assez particulier et un peu hypnotique à terme, parce que, en fait, vous vivez deux fois. C'est-à-dire que vous êtes dans une journée, vous allez, mettons, un déjeuner, et puis après, vous allez retracer ce déjeuner. Et parfois, d'ailleurs, il vous prend plus de temps pour retracer un événement de la journée que le temps où vous l'avez vécu. Ce qui fait que les journées ont 48 heures, en tout cas que vous vivez en miroir, chose vécue, chose inscrite. Ce qui, à terme, vous met dans une sorte de maelstrom assez particulier.
Et justement, quel est votre rituel d'écriture pour ce journal? Est-ce que c'était toujours à la même heure le soir, au fur et à mesure de la journée?
Plutôt au fur et à mesure. Évidemment, le soir est toujours propice à la recollection et à la récapitulation de ce qui s'est passé. Mon rituel, c'est surtout de le faire à la diable, c'est-à-dire d'écrire au plus vite, parce que sinon, si on devient l'otage de réécriture ou d'une version qui se perfectionne, il n'y a pas de gueuloir, c'est pas très flaubertien comme exercice. On a tout intérêt précisément à aller vite et à fixer au plus vite. Donc il y a un rythme en effet d'écriture, parce que sinon la vie serait cannibalisée par la tenue du journal, on ne dormirait plus. Il y a un autre, puisque je suis sur ce sujet, je crois une autre spécificité du journal et de la temporalité, c'est que le temps est un excellent co-auteur. C'est-à-dire que si vous tenez un journal, mettons en 2017, et que je l'avais publié en 2018, c'est presque du journalisme. Si vous attendez 4 ans, 5 ans ou plus, c'est comme un vin qui vieillit.
De garde.
Voilà, et qui vieillit en fût, et qui va ajouter de la perspective, de l'épaisseur à ce que vous aviez saisi sur le vif à un certain moment. D'où d'ailleurs le destin possible d'un journal, c'est que ce qu'on peut éventuellement imaginer, même si on n'en sait rien, c'est que peut-être dans 10 ans, plutôt dans 50 ans, ça pourra, en tout cas ça se passe avec des journaux du passé, ça peut tenir lieu de témoignages plutôt sociologiques ou historiques sur ce qu'était l'esprit d'un temps et d'ailleurs les personnages qui apparaissaient. D'où, par exemple là, dans ce journal, je consigne assez scrupuleusement, quand je vais à tel ou tel événement, les noms des participants. C'est pas pour faire du name dropping, comme on dit en anglais, c'est parce qu'on voit au fil du temps, au fil de ces quelques mois, précisément des récurrences, des personnages qui composent la trame d'une société, notamment d'une société littéraire, dans un moment donné. Voilà.
Vous avez donc presque une approche biblique du nom propre. Citer un nom, oui, alors ça, le donner, ouais, c'est conférer un aspect presque sacré à la personne.
Oui, ça je le dis à maman, c'est-à-dire que quand vous lisez les textes sacrés juifs, vous lisez le Talmud par exemple, vous voyez bien l'importance qui est donnée au nom propre, parce que nommer c'est créer, parce que nommer, ou ce qui a été nommé, est digne d'être remémoré. Le nom, c'est comme une inscription sur une stèle, ça veut dire que quelqu'un est passé. Et ce quelqu'un, il était désigné, il a été nommé par ses parents, il a été parfois baptisé, accueilli dans le sein d'une église, comme une singularité. Le nom, ça veut dire « je suis unique ». Donc oui, j'ai un intérêt presque poétique d'ailleurs, au nom propre et aussi à la juxtaposition de ces noms propres. Qui était là? Il y a un pluriel aussi.
Alors, ce n'est pas votre premier journal d'année. Là, vous aviez choisi l'année 2017, mais vous aviez également choisi une autre année, celle de 1997. Et cette fois-ci, vous aviez attendu beaucoup plus longtemps avant de publier ce journal. Le texte vous a semblé mûr d'une certaine façon pour publication. Au bout de 5 ans, ce n'était pas prémédité, j'imagine.
Non. 97, ce n'est pas une année présidentielle, mais c'est une année de dissolution de l'Assemblée et le début de la cohabitation avec l'arrivée de Lionel Jospin à Matignon, alors que Jacques Chirac est président de la République. En effet, j'avais attendu quasiment une vingtaine d'années ou 18 ans pour le faire paraître. Et là, il m'a semblé que, alors ça renvoie aussi à une autre durée, qui est la durée historique, c'est-à-dire est-ce que les choses s'accélèrent plus ou moins. Et il m'a semblé que, en effet, en 5 ans, beaucoup de choses avaient changé. Et quand je consigne ces pages, enfin, je ne peux pas imaginer, par exemple, qu'une pandémie va, pendant 18 mois ou 2 ans, nous faire passer dans une autre dimension. En même temps, il y avait une autre intention. Qu'est-ce qui fait que le vin me semblait susceptible d'être tiré du fût? C'est que 2017 est une année électorale. Il paraît début 2022, qui est aussi une année électorale, et on pouvait avoir éventuellement un contrepoint entre ce que j'avais consigné, notamment au premier semestre 2017, donc le moment des élections présidentielles puis législatives, et la même durée en 2022. Voilà.
Il y a donc le temps du chronomètre et le temps perçu, le temps vécu.
Oui, il y a le temps vécu qui est le temps...
Qui a été particulièrement dense ces dernières années.
Oui, eh ben, il se trouve qu'en 2017, je savais que, pour d'abord, c'est l'année de mes 60 ans, je savais que ça allait être une année électorale, mais si vous regardez en janvier, ça ne m'intéresse pas foncièrement parce que je tiens pour acquis qu'en vertu du principe d'alternance, c'est François Fillon, c'est son tour, si vous voulez. Et puis, les choses s'emballent ou se dérèglent ou se mettent à muter. Et c'est vrai que je deviens le consignateur au jour le jour de cette destruction, en tout cas à ce moment-là, de cette forte perturbation d'un paysage politique bipolaire. Et tout ce qui est aujourd'hui tout à fait compris rétrospectivement vu. Mais au jour le jour, c'est vrai que le principe d'aléa est assez fort parce qu'on ne sait pas, où on va finalement. Et c'est sûrement assez amusant de relire en accéléré. Bon, quand j'ai relu le texte pour les épreuves, c'est un peu comme ce qu'on appelle les flipbooks. Vous savez, c'est ces petits carnets qu'on feuillette avec un pouce et on voit un personnage, en général de dessin animé, qui très vite s'anime. Donc c'est 700 pages de flipbook peut-être aussi.
Est-ce que vous avez fait des retouches ? Des coupes, des réécritures, vous avez respecté contraintes de l'exercice.
Ça, c'est une bonne question. Et en effet, je touche à rien. D'abord, sans doute par paresse, parce que je n'ai pas envie de réécrire. Et deuxièmement, par honnêteté. C'est-à-dire que l'intérêt de l'instantané, c'est précisément, y compris dans les erreurs d'évaluation, ce que l'on pouvait penser à un moment donné. Donc, non, je ne retouche pas. Je le donne comme une chose brute. Au risque de se voir démenti, en effet, par ce qui a suivi. Mais ça fait partie aussi précisément de la prise en compte temporelle du moment où c'est écrit et du moment où c'est lu. Voilà.
Vous avez parlé de François Fillon, qui est le personnage fort des premiers mois de l'année 2017, et puis nous assistons à sa chute. Vous le considérez comme un personnage de Claude Chabrol. Chabrol revient vraiment à plusieurs reprises dans votre texte. Pourquoi ?
Parce que c'est peut-être une facilité, mais il y a une typification des personnages, notamment en France, qui est un pays littéraire et qui est aussi un grand pays de cinéma. Donc vous allez trouver des précédents. Alors j'aurais pu passer par Flaubert éventuellement, mais dans le cinéma de Claude Chabrol, qui est un cinéma essentiellement des années 60-70, vous avez en effet un personnage qui est le notable de province, qui a sa gentilhommière, qui aime bien aller chasser avec l'épagneul qui secoue ses poils dans la rosée du matin, des audis qui passent en Suisse avec du numéraire dans le coffre, et la femme du notaire qui couche avec le médecin. Bon, donc il y a tout un climat, qu'on peut dire, chabrolien. Et avec les personnages, enfin les acteurs récurrents qui étaient Michel Bouquet, François Perrier, Stéphane Audran, qui me semble retrouver dans la Sarthe, enfin dans la Sarthe fillonesque, quelque chose qui s'enracinerait dans les années Pompidou-Giscard et dans une façon de faire de la politique qui commence dans les années 70. Voilà. Donc c'est vrai que la politique aussi, souvent, la politique c'est archéologique, c'est-à-dire qu'il y a évidemment un substrat, des précédents, ça ne sort pas de nulle part, et en l'espèce, le candidat Fillon me semblait, ou son histoire aurait probablement enchanté Chabrol. D'ailleurs, à un moment, je croise Isabelle Huppert, qui a été une grande actrice chabrolienne, et elle en convient. Elle me dit en effet, ce qui se déroule aurait sans doute enchanté Claude, et l'aurait peut-être inspiré.
Alors, il y a d'autres candidats, nous parlerons plus tard d'Emmanuel Macron, mais aujourd'hui, en lisant ce texte, ce que vous dites sur Jean-Luc Mélenchon, forcément, peut-être regardé d'un autre œil, est-ce que vous pensez que le Jean-Luc Mélenchon de 2017 est très différent de celui d'aujourd'hui ?
Non, je crois que ça se confirme, j'ai pas dit ça s'aggrave. Alors là, pour être un peu flaubertien, il y a le côté, pour moi, il y a un côté Monsieur Homais de l'extrême gauche. Vous savez, Monsieur Homais, c'est le pharmacien qui est à la fois lyrique et papelard, qui a la tête dans les étoiles, une vision un peu hugolienne ou post-romantique, un peu comme Emma Bovary, hein, dont il pourrait être un pendant. Et puis en même temps, il faut qu'il compte ses fioles et que le soir, il fasse la caisse. Eh bien, je pense qu'à certains égards, M. Mélenchon, d'un côté, qui se met en scène récemment devant un mur d'images représentant le grand océan, ou qui aime bien se démultiplier en hologramme, ça c'est assez intéressant, que quelqu'un fasse de la politique avec 7 ou 8 avatars, comme dans une baraque de fête foraine, où un marchand d'illusions, un magnétiseur, nous montre des spectres, bon, en l'occurrence des spectres pixelisé, mais fantomatique, évidemment. Donc tout ça est assez intéressant et compose, oui, je pense qu'il y a une légende romanesque des grands hommes politiques qui renvoie précisément à un substrat culturel. Clémenceau, par exemple, disait de Jean Jaurès, quand vous écoutez ses discours, tous les verbes sont au futur. Et on pourrait peut-être appliquer à M. Mélenchon, ça le flatterait sans doute, cette phrase de Clémenceau sur Jaurès. Mais puisqu'on est sur Clémenceau, dans la conjoncture où nous sommes, où l'on voit bien que Jupiter, Macron, dont on suit ici l'avènement, est obligé maintenant de descendre de l'Olympe pour aller à la buvette du Palais Bourbon, Clémenceau disait « ce ne sont pas des aigles qui ont sauvé le Capitole ». Et ben, peut-être nous sommes en train de revenir à une politique, une forme de politique plus pragmatique ou plus concrète, où il ne faut plus traiter avec les aigles, mais avec les oies. Mais la politique, c'est aussi ça. C'est aussi savoir parler aux oies, si j'ose dire.
Nous assistons en tout cas en 2017 à l'envol de l'aigle. Cet Emmanuel Macron que l'on sent progresser au fil des pages, des sondages, des ralliements aussi, ouais. Semaine après semaine. Et vous, votre posture est à la fois celle d'un spectateur, ouais. On le perçoit, mais aussi de quelqu'un peut-être qui se laisse convaincre, je ne sais pas, mais en tout cas, peut-être qu'il se laisse embarquer presque malgré lui. Je pense à la scène qui a lieu le jour de votre anniversaire. C'est un meeting du candidat Macron et vous vous retrouvez presque acteur malgré vous de cet épisode.
Oui, c'est le 4 février 2017. C'est une de ses premières rencontres, un de ses premiers meetings, comme on dit en bon français, à Lyon. Et il se trouve que je suis à Lyon ce jour-là, j'y suis invité. Et je me retrouve dans l'enceinte du Palais des Sports, où j'ai vu autrefois, quand j'étais adolescent, des groupes de rock. Donc j'ai vu le Pink Floyd, j'ai vu Led Zeppelin, j'ai vu les Who, j'ai vu les Rolling Stones. Et c'est dans cette même enceinte, avec à peu près 8000 places, que l'apparition un peu extraterrestre du jeune candidat Macron va se produire. Et alors je suis là, alors là encore, l'importance du passé, des substrats, des strates. Dit, au fond, c'est curieux, parce qu'autrefois, j'ai vu des rockers, et voilà quelqu'un qui, à sa façon, même s'il n'y a pas de guitare derrière lui, essaie aussi d'envoûter une assistance. Alors, qu'est-ce qui a changé ? Ben, ce qui a changé, c'est qu'il n'y a plus d'odeur de cannabis qui flotte comme en 1973 dans les enceintes du Palais des Sports. En même temps, j'ai des rémanences. Par exemple, il y avait une chanson des Who qui s'intitulait « Won't get full again ». On ne va pas encore se faire avoir par les politiciens. Donc je revois les Who au moment même où un politicien est en train d'envoûter précisément une assistance. Ça m'amuse toujours de mettre en perspective finalement ce qui arrive. C'est-à-dire, ça c'est presque un réflexe, peut-être le voit-on dans ce journal, c'est que j'essaie toujours, mais maintenant c'est intégré presque comme un réflexe, de raisonner sur au moins 3 générations. C'est-à-dire abscisse et ordonnée, c'est-à-dire syntagme et paradigme, comme on dit en lexicologie ou en stylistique. C'est-à-dire il y a du présent, bon, et ce présent est évidemment habité, déterminé, influencé par ce qui a pu se passer avant. Et même d'ailleurs dans la chimie particulière de ce Macron 2017, il y a des éléments du passé. Il y a les premières technocraties françaises à partir de la fin des années 30. Ça passe d'ailleurs par Vichy et ça se confirme après 45 par précisément une idéologie planiste, l'optimisme technocratique et reconstructeur des Trente Glorieuses, dont il est sûrement un des enfants. Et en même temps, l'élément présent qui me frappe assez, ça je crois que je le perçois, c'est qu'on est dans une période de dégagisme à ce moment-là, comme on a dit. C'est le moment où le Brexit est en train d'être acté. C'est le moment où Trump, ou des gens comme Bolsonaro ou comme Orban sont en train d'accéder au pouvoir dans leurs pays respectifs, en dégageant précisément les anciennes castes politiques. Et il y a cette dimension à ce moment-là, sauf que le dégagisme de 2017 ne se fait pas en France sur les extrêmes, mais une sorte de sagesse qui est un dégagisme au centre, à ce moment-là. Mais en même temps, et c'est là que les 5 ans qui viennent de s'écouler peuvent nous importer, c'est que un dégagisme et demi. C'est-à-dire que ce mouvement ne s'interrompt pas, et ce qu'on vient de voir maintenant, c'est précisément une reconsolidation des extrêmes dégagistes, c'est-à-dire une extrême droite, une extrême gauche. Ce qui perdure, c'est l'écrasement des partis de centre-droit ou de centre-gauche, et cette fois-ci au détriment du président, qui, quoique réélu, se trouve pris dans l'étau de 2 forces politiques plus radicales ou plus extrêmes que ne l'étaient le PS et les Républicains en 2017. Mais ce que je vois aussi sur le moment, qui est quand même très frappant, et je ne comprends pas forcément, c'est qu'il y a un séisme politique qui est en cours, et pas seulement avec l'affaire Fillon, mais parce qu'on dit, c'est un objet politique non identifié, Macron, en ce moment-là. Donc, d'ailleurs, il brouille les pistes lui-même. Donc, d'où vient-il? Et beaucoup disent, c'est un faux-né du président Hollande. Ça, c'est une des lectures. Or, quand on regarde les législatives de juin 2017, le Parti socialiste comptait, dans la Chambre élue en 2012, 314 députés, et 2017, 31. Donc, il se passe quelque chose qui va réduire par 10, c'est quand même incroyable, un des 2 partis importants de l'histoire récente de la Ve République.
Comment voyez-vous la place de l'écrivain que vous êtes par rapport aux politiques et au pouvoir? C'est celle d'un témoin, celle d'une pellicule ultra-sensible qui va justement enregistrer
Alors,
les réalités d'une époque.
J'ai jamais voulu en faire, comme on dit, la politique active. J'aurais eu quelques possibilités, on a même eu des ouvertures, mais bon, comme disait le président Mitterrand, quand on passe de la littérature à la politique, on tombe de 4 étages. Mais moi, je n'avais pas envie de me défenestrer, donc je suis plutôt resté à l'étage de la littérature. J'ai un vieil ami qui lui a fait beaucoup de politique, qui s'appelle Pierre Moscovici, et il m'a envoyé il y a 2-3 ans un de ses livres avec la dédicace à Marc Lambron, qui aime la politique malgré lui. Eh bien, je trouvais que c'était assez pertinent, parce que ça fait un effet, je ne suis pas non plus indifférent à ce qui se passe dans ce pays, comme citoyen, mais évidemment comme auteur aussi, parce qu'il y a quand même un théâtre, il y a quand même surtout en France, où peut-être moins aujourd'hui qu'autrefois, mais enfin, la politique, c'était aussi un théâtre du verbe. Et ça allait rester beaucoup jusqu'à au moins le général de Gaulle, et considérer que Pompidou était normalien, auteur d'une anthologie de la poésie française, que François Mitterrand était quand même très pénétré de littérature, après le niveau un peu baissé, si j'ose dire. Mais après tout, le président Macron a raté 2 fois l'école normale supérieure. je ne sais pas s'il était admissible, enfin, en tout cas, ça partait d'un bon sentiment.
Mais il n'a pas et oublié il a le cagneux qu'il était.
Un roman rend... Ah bah oui, ça c'est sûr qu'il y a la composante cagneuse qui est là. Et le cagneux recalé, c'est comme ceux qui ont raté l'ENA. Il y a un club comme ça, vous pouvez regarder, qui a raté l'ENA. Monsieur Zemmour, Madame Vallaud-Belkacem, Monsieur Montebourg. En général, ça peut ouvrir une carrière de revanche politique assez, assez riche. Voilà.
Alors, la politique n'est pas le seul objet de ce journal.
Heureusement.
Et vous tenez à multiplier les points de vue, et notamment en vous nourrissant de culture, d'exposition, de concerts. Cela revient très souvent. Ouais. De dîners en ville aussi, de ouais. séances académiques, de ouais. réunions au Conseil d'État. Ouais. C'est vraiment votre vie personnelle qui tisse un peu le fil de ce texte. Quelle unité faites-vous entre tous ces fragments ? D'ailleurs, doit-il y avoir une unité ou au contraire,
si,
vous préférez la multiplicité ?
Non, je crois qu'il y a une unité, c'est que je raconte ce qui se passe dans mon village. Donc, chacun est citoyen d'un village. Bah, il se trouve que le mien, même si je suis lyonnais d'origine, mais je suis un migrant de l'intérieur, donc ça fait 40 ans que je vis à Paris, je ne m'en lasse pas. Parce que toute capitale, toute ville-monde a un pouvoir multiplicateur, pourrait-on dire, par rapport à des villes plus provinciales ou plus calfeutrées. Pour moi, Paris, ça ressemble un peu, alors soit un film de Fellini, c'est-à-dire il y a la dimension de cirque, de péripéties, parfois enchantées, parfois burlesques, où ça ressemble à cette chose qu'on ne trouve plus aujourd'hui, qui s'appelait un flipper. Et quand vous jouiez au flipper, il y avait une boule que vous envoyiez avec deux palettes mobiles, et il y avait des petits plots électriques, et ça tiltait. On disait « ça tilte bon, ». Pour moi, Paris, ça tilte encore. Mais je ne vais pas non plus m'inventer des vies qui ne sont pas les miennes. Donc, ce que je raconte, ce que je consigne, en effet, c'est la vie d'un paysan de Paris. Peut-être d'un devin de village, pour prendre un autre titre. Mais et dans un village, il y a plusieurs rues, il y a plusieurs familles, il y a plusieurs demeures. Et à cet égard, c'est un journal un peu cantonal, dirais-je, contrairement à ce qu'on voudrait croire en disant que je suis que je circule. Oui, je circule, mais comme une boule de flipper.
Voilà. Est-ce qu'il y a aussi en vous quelque chose du lyonnais
qui,
vous le dites, voix double ?
Oui. Pas parce que je pratique le Beaujolais à outrance, mais parce que, oui, évidemment, il y a des cultures, des identités de ville. Et Lyon, j'ai quand même vécu 19 ans, c'est précisément une ville du deux. C'est-à-dire qu'il y a deux cours d'eau, c'est-à-dire qu'il y a deux collines. La colline qui prie, Fourvière, et la colline qui travaille, la colline de la Croix-Rousse, disait-on. Et c'est même une ville blanche et noire, enfin, en tout cas, politiquement. C'est une ville où ont prospéré aussi bien l'esprit cultuel catholique, c'est une grande ville de mission par exemple, et les sociétés de pensée. Et tout ça jouant sur des équilibres, c'est une ville, on parle parfois, les historiens parlent du modérantisme lyonnais, c'est-à-dire qu'il y a une chimie qui a été éprouvée à Lyon, sans doute après les massacres de 1793, lorsque la Convention envoie Fouché et qu'on décrète la mort de Lyon. Lyon n'existe plus, et elle est renommée Lyon, ville affranchie. Elle perd son nom, l'importance du nom. Et au 19e et au 20e siècle, Lyon est devenue une ville de radical de droite, radical de gauche. Édouard Herriot est maire pendant une cinquantaine d'années. Donc, il y a des recettes qui, je dirais, concordataires, c'est-à-dire on apprend à parler sur l'autre rive, on apprend à compter jusqu'à deux. Et c'est sûr que quand j'arrive, ou même aujourd'hui encore, quand vivant à Paris, j'ai quand même une sorte de troisième œil, ou en tout cas de regard latéral, ou précisément de point de comparaison qui fait que parfois je peux me vivre comme un espion rhône-alpin qui est lancé dans le cirque de la capitale, qui regarde ce qui se passe avec parfois un peu éberlué. Mais ça me donne un angle ou un regard en angle qui là aussi incorpore sans doute le passé pour déchiffrer le présent et une altérité culturelle qui est celle d'une ville avec une forte identité qui est Lyon pour regarder Paris. Vous savez, Albert Thibaudet a écrit « Si Paris est la capitale de la France, Lyon est la capitale de la province ». Alors, moi, je regarde la capitale de la France avec les yeux de quelqu'un qui a été élevé dans la capitale de la province. Ça fait deux. Voilà.
Vous dites que vous écrivez le journal d'un village ou peut-être un journal
oui.
cantonal.
Oui.
Néanmoins, vous vous refusez à écrire un journal tribal. Vous le dites le 1er novembre, je crois.
Un journal tribal. Bah, ça n'est ni tribal ni tripal, à mon avis. Mais dites-moi ce qui m'arrive.
Je vais vous...
À l'approche du jour des morts. Alors
exactement.
Oui.
En fait, mais alors ça va nous amener à une autre question qui est celle de la mort qui revient comme une litanie au long des jours. Vous dites que ce journal, c'est aussi un obituaire qui cite le nom des morts. Il y en a très régulièrement des célébrités. Nous avons évoqué Jean d'Ormesson, Johnny Hallyday, mais il y a aussi Michel Déon, Mireille Darc, Max Gallo cette année-là. Mm-hmm. Il y a aussi le fils de votre ami Claude Lanzmann, Félix, et vous en parlez souvent. Et le 1er novembre, ce n'est pas un hasard, j'imagine, si vous écrivez « Le sujet de ce journal, ce n'est pas tant un relevé de vie tribale, l'existence contingente d'un intellectuel dans le Paris de 2017, que cet âge qui se confond avec l'extinction lente de la génération supérieure. Les tuiles tombent du toit, on verra bientôt le ciel. Il y a le miracle fragile de ce qui perdure et la succession des adieux pour ceux qui s'en vont. En tentant de fixer des scènes où se prodiguent aussi des personnages plus jeunes, ceux de mon âge, je rassemble par anticipation les briques et les marbres de leur futur mémorial de poche. »
Oui. Oui, parce qu'une année, c'est un carottage dans le temps et bien sûr, il y a des disparitions ou des deuils. Donc une année, c'est qui est là et qui n'est plus là. Alors c'est vrai que je suis assez frappé parce qu'en janvier, Jean d'Ormesson prend la parole à l'église Saint-Germain-des-Prés aux obsèques de son ami Michel Déon. Et en décembre, c'est le nouveau président de la République qui prend la parole aux Invalides pour les obsèques du dit Jean d'Ormesson. Donc ce qui est une année pour vous comme une autre peut être l'année finale pour certains. Et évidemment, pour ceux de la génération qui est au-dessus de vous. Donc moi, j'ai le sentiment, avec l'allongement de la durée de la vie qui est devenu un phénomène général dans les sociétés occidentales, d'avoir encore, à l'âge que j'ai, un toit au-dessus de la tête. Et c'est un toit de nonagénaire, octogénaire, nonagénaire, des gens qui ont l'âge d'avoir été mes parents, et ma mère est toujours vivante, ou de grands frères. Par exemple, quand je vois, je ne vais pas parler de choses académie française, quand je vois que Mick Jagger, à 78 ans, est en train de tourner, et avec l'énergie et la verve d'auparavant, de toujours, ça vous donne le sentiment que il y a encore des tuiles au-dessus de votre tête. Mais évidemment, la destinée de chaque génération, c'est que les tuiles tombent du toit, que vous montez en ligne et qu'un jour, c'est vous qui tenez lieu de tuiles, en quelque sorte. Voilà. Et en même temps, je suis très sensible à ce qu'il y a de précaire, de fragile dans une vie humaine. Et c'est vrai que je scrute particulièrement ce que peuvent avoir à me dire des amis menacés. Après tout, là, on voit Claude Lanzmann. Il disparaît en juillet 2018, c'est-à-dire 6-7 mois après la fin de ce journal. Donc oui, quand je dis que c'est un obituaire, il y a des requiem qui sont incorporés, parce que oui, l'adieu aux amis, c'est aussi c'est un vieux topos poétique ou littéraire, mais ça vous arrive en acte, surtout à partir d'un certain âge.
Il y a aussi des morts plus anonymes, celles des attentats, qui apparaissent en pointillés de façon très discrète, mais finalement qui reviennent comme une rengaine tout au long des pages. C'est un monde violent aussi que vous nous donnez à voir.
Oui, c'est une année où il y a beaucoup d'attentats, alors c'est d'ailleurs presque mondial, à la voiture, la voiture Bélier, qui fonce dans la foule. Ou des maboules, ce qu'on appelle aux États-Unis des gun crazies, vous savez, ces massacres souvent perpétrés par des jeunes gens qui décrochent leur fusil à répétition. Et, oui, donc ça fait partie en toile de fond d'une certaine folie de l'époque. Oui, ça fait partie d'un certain climat. C'est aussi une année, si je ne me trompe, trumpienne, ou qui va l'être bientôt. Voilà. Il y a un attentat, je crois que c'est à Londres, lors du concert d'Ariana Grande, et je crois que c'est à Las Vegas, où il y a un cinglé qui s'installe dans une tour et qui mitraille un concert de country and western. Donc c'est assez frappant de voir que c'est la musique qui est frappée comme elle l'avait été précédemment au Bataclan. Voilà, donc oui, je consigne au fil du temps. Et en effet, quand on lit maintenant avec l'effet d'accélération que permet un livre, c'est sûrement assez frappant de voir que c'est une des ponctuations tragiques de cette année-là.
La musique, vous en parlez, est très présente dans votre vie.
Oui.
Vous parlez des concerts, de votre premier concert de Pink Floyd, vous l'avez évoqué, de David Bowie, de nombreux autres artistes. Vous avez un côté rock'n'roll inattendu.
Inattendu. Je vais aussi, entre parenthèses, pour me couvrir au concert de la Fondation Saint-Gerre-Polignac, qui dépend de l'Institut, où on joue de la musique classique. Mais bah, oui, c'est-à-dire que, imaginez quelqu'un qui aurait eu 20 ans en 1920 et qui aurait raté le jazz. Bon, bah, quand vous avez eu 20 ans en 77, 78, si vous ratez le rock, il y a quand même quelque chose d'important qui vous a échappé dans un phénomène contemporain ou de génération. Donc c'est vrai que ça fait 40 ans que je suis accompagné par cette musique, par ces artistes, parce que pour le coup, là, on est contemporain de quelque chose qui arrive. C'est-à-dire, j'aurais pas été contemporain du cubisme, je suis pas contemporain du jazz des années 30 ou des années 50. On est contemporain de formes qui, souvent de façon inédite, moi je suis quasiment né précisément avec le rock. Donc pour moi, ça pose pas de problème, ni de problème d'ailleurs, vous dites inattendu, ni de problème de hiérarchie, parce que c'est un son, c'est une électricité moderne. Voilà, alors si je disais ça à mon excellent confrère Alain Finkielkraut, évidemment, il sortirait les verges pénitentielles pour me battre. Mais c'est comme ça, j'ai cette musique avec moi, y compris dans la rue, voilà, quand je marche. Mais en même temps, ça me semble assez évident, enfin, que par millions, les lycéens du monde, là, ça participe aussi d'une certaine mondialisation du goût, sans doute. Certains diraient de l'infragoût, moi je ne le dirais pas, mais à partir des années 60-70, cette musique est devenue véhiculaire, en quelque sorte, comme une langue véhiculaire, avec dans chaque pays des chanteurs, pour le coup français, et là, qui seraient plutôt des chanteurs vernaculaires. Et d'ailleurs, à la commission des grands prix de la chanson, mes confrères de l'Académie, en général, me font confiance pour proposer des noms. Donc, vous voyez que ça peut servir, y compris dans les enceintes académiques. Et ces dernières années,
vous êtes le spécialiste.
J'ai proposé le nom de Gérard Manset, ça a été approuvé, d'Étienne Dao l'année dernière, qui était extrêmement honoré. Et cette année, parce qu'on l'avait toujours oublié, Jacques Dutronc. Donc, vous voyez que l'Académie française peut honorer les playboys et les opportunistes.
Alors, l'un des formats d'aujourd'hui, vous avez parlé de musique, mais un format nouveau, littéraire, le mot est peut-être osé, mais osons-le, qui est apparu et qui n'existait pas en 1997, c'est celui du texto. Vous en insérez régulièrement dans vos pages, presque de façon documentaire.
Oui.
Comment est-ce que vous en faites la matière de votre écriture ?
J'en fais la matière parce que c'est quand même un mode de correspondance, même s'il est comme en 146. Moi, je ne tweete pas. Hein. Mais le texto, c'est comme un télégramme autrefois. On envoyait des télégrammes ou des pneumatiques. Bon, donc, c'est une forme plus rapide, plus économique, plus personnelle de s'envoyer des télégrammes. Donc, c'est amusant de les voir parce que le paradoxe de l'époque, c'est que si certains, en tout cas, déplorent la déculturation en cours, en même temps, graphiquement, on n'a jamais autant écrit sur la planète, parce que les courriels, les textos, les tweets, après, vous pouvez poser la question de l'orthographe, ou de la syntaxe, ou de la richesse lexicale, mais en réalité, il y a un retour à l'écrit, et ben, ça m'amuse de consigner ce qui peut s'échanger à telle ou telle occasion ou avec telle ou telle personne, par ce biais. Autrefois, on aurait recopié des correspondances. Bon, ben là, cette forme économe de communication fait partie de la comédie de l'époque.
Et avec parfois une certaine poésie, je pense à certains textes de Delphine, par exemple.
Ah, Delphine est une sorte de Nadja pas folle, comme une sorte de muse. Alors, c'est quelqu'un que je connais très bien. Et qui, d'ailleurs, elle a publié un livre avec des bourrimés, des jeux de mots, des calembours. Et elle a une certaine excellence, précisément, dans le bref, dans le lapidaire ou dans la formule amusante.
Le 31 décembre, vous finissez l'année avec Lulu à Lyon, qui est une guenon. Est-ce que c'est un hasard ou est-ce que vous vouliez donner ce côté simiesque, finalement, au journal de l'année 2017?
Alors, Lulu, mais qui a disparu en 2020, Lulu était un gibbon de Muller, une guenon, et qui est arrivée au Lyonnais Parc de la Tête d'Or en 1961. Donc c'est à peu près ma contemporaine. Et c'est sans doute le plus vieil animal que j'ai côtoyé sur la planète depuis mes 4 ans. D'ailleurs avec un certain aspect miraculeux, car la durée moyenne de vie des gibbons de Muller est d'une trentaine d'années, et elle aura vécu 60 ans. Elle a quasiment doublé, c'était le plus vieux gibbon de Muller qui vient de Sumatra, en captivité sur la planète, et donc elle est devenue en quelque sorte immortelle, ou quasiment.
Elle aussi.
Tous les membres de l'Académie française ne doublent pas forcément l'âge moyen de disparition, même si ça peut venir avec le transhumanisme. Bon. Donc c'est un singe qui a scandé mes décennies depuis assez longtemps. Alors je suis à Lyon, je vais voir ma copine, ma jumelle, ma contemporaine Lulu, qui est un peu fatiguée à ce moment-là. Elle saute moins de branche en branche. Mais c'est pour dire que je reviens à l'origine, et notre origine, même paléontologique, est plutôt du côté des grands singes. Et deuxièmement, oui, c'est parce que la comédie humaine est aussi une comédie simiesque, et que c'est vers un singe que je me dirige à la fin de l'année, comme ça, parce que le singe, c'est aussi la dérision des comédies humaines que je viens de retracer sur plusieurs centaines de pages.
Alors, c'est donc la fin de ce journal 2017 que vous avez publié cette année, sous le titre « L'année du coq et du feu ».
Non, l'année du coq de feu. Qui est
l'année du coq de
l'année
feu.
L'année chinoise. Hein, je prends l'année chinoise, le coq de feu. Ouais.
Et vous venez de publier un autre livre, beaucoup plus petit, aux éditions de l'Équateur, qui est une conversation autour de Saint-Simon, de la gaieté, du pouvoir et de la mort, avec Jean d'Ormesson. Saint-Simon, lui aussi, a dépeint les singeries de la cour. C'est un point commun que vous avez.
La différence, c'est qu'il était moins vaniteux que nous autres qui publions de notre vivant des textes qui peuvent faire l'objet de commentaires, de débats, voire même d'éloges. Car vous savez que tout l'œuvre de Saint-Simon est posthume. Donc il est le consignateur, il est le grand mémorialiste de la cour de Louis XIV et de la Régence. Et il se trouve que je préside depuis quelques années un prix qui a toujours été abrité par l'Académie française, puisque Maurice Druon, Gabriel de Breuil l'ont présidé, et qui couronne un mémorialiste. Il se trouve que Jean d'Ormesson publiait cette année-là un de ses livres, je dirais malgré tout que « Cette vie fut belle », qui est un vers d'Aragon, et que le jury choisit de distinguer Jean d'Ormesson. Jean d'Ormesson, qui est fatigué, ne peut pas se rendre à la Ferté-Vidame pour recevoir son prix, il ne le souhaite pas. Mais en revanche, nous remplaçons ça par un entretien filmé, essentiellement autour de Saint-Simon, dont on publie aujourd'hui le verbatim, la transcription. Donc en effet, vous avez deux vieux normaliens, finalement, qui s'entretiennent sur un duc qui méprisait absolument la méritocratie, et d'ailleurs les aïeux même de Jean, parce qu'il est le premier lauréat de ce prix dont le nom figure dans les mémoires de Saint-Simon. Donc là aussi, il y a des effets de renvoi, des échos temporels qui sont assez amusants. Et Jean, au cours du s'anime, c'est-à-dire qu'on voit très bien, je crois qu'on le sent à travers les pages, que la vieille passion de la littérature est tout de même là. Et pour une fois qu'on lui demande de ne pas parler de lui, il a un certain plaisir à parler d'un autre. Et quel autre ? Voilà. Et en même temps, il y a comme une note un peu testamentaire. Maintenant, quand je relis ce qui se dit ce jour-là dans cette conversation, évidemment, il y a comme un regret. Le regret de savoir que, comme il le dit, le temps lui est tragiquement compté. Et là, on est en juin 2016 et il va disparaître en décembre 2017. Donc oui, c'est aussi une sorte d'addendum ou d'ajout ou de codicille à ce journal de l'année 2017.
Eh bien, un grand merci Marc Lambron d'avoir été avec nous. Je rappelle donc le titre de votre journal, « L'année du coq de feu », c'est aux éditions Grasset. Et puis ce petit livre, « Le duc et le comte, conversation autour de Saint-Simon, de la gaieté, du pouvoir et de la mort », aux éditions Équateur. Un grand merci et à bientôt.
Je vous remercie. Thank you.